62e anniversaire du débarquement, troisième partie, donc puisque le jazz débarque lui aussi à peu près en même temps que les troupes américaines. Pour le 50e anniversaire, le 1er juin 1994 exactement, nous avions réalisé une émission en direct avec la participation de Sim Coppens qui avait accepté de se déplacer. Sim, c'est le précurseur des émissions de jazz sur la radio, sur Paris Inter, dès sa création. Il le racontera et il faut dire que c'est un hommage à Sim Coppens que nous avions aussi, que nous voulions aussi réaliser puisque mon vieil ami nous a quittés en 2002. Il y avait aussi présent ici Daniel Nevers, historien, on dit historien du jazz, mais en fait historien tout court. Pour cette troisième partie, nous allons revenir à la libération, à la manière dont ça s'est déroulé, en particulier évidemment dans le domaine du jazz. Mais avant, et pour faire le lien avec la fin de la deuxième partie, nous avons à ce moment-là parlé beaucoup du jazz sous l'occupation. C'est un jazz important, c'est un jazz français qui se développe et qui a été finalement assez occulté par la suite. Alors, je voulais, pour faire un peu ce lien, vous faire entendre un harmoniciste. Et oui, il y en avait des Français. En l'occurrence, il s'appelle Danny Kane, K-A-N-E. Il n'est pas très connu, mais vous allez l'entendre. Il a quelque chose à dire. Ici, l'enregistrement a été réalisé en avril 1943. Il y a à ses côtés Yvonne Blanc au piano et Jerry Mengo à la batterie. Thank you. Le débarquement, la libération va changer les choses pour les jazzmen français. Daniel Nevers va nous raconter ça. En même temps, évidemment, il va y avoir des nouveautés, une révolution, parce que le bebop sera une véritable révolution. Il faudra donc s'y adapter. Il y aura des batailles qui seront des batailles homériques. Nous en reparlerons un tout petit peu après. Mais pour l'heure, Daniel Nevers nous fait part des différents témoignages qui permettent de penser que les jazzmen français s'étaient pris pour des dieux pendant cette période de l'occupation, ce qu'on oublie un peu trop souvent, et qu'ils ne l'étaient plus au moment de la libération. Autrement dit, les GI qui débarquent, le nouveau jazz qui débarque, les met dans une situation quasi d'infériorité.
Moi, ce que je voudrais dire,
continuer un petit peu, juste dans le courant de l'année 45, puis a été dissous, Django a eu un certain nombre de difficultés, puis après il a retrouvé Stéphane Papelli, ils ont remonté des combinaisons guitare-violon. Pour Django, ça s'est relativement bien passé. En revanche, pas mal de musiciens de jazz qui étaient connus avant-guerre et sous l'occupation, je pense à Combelle, Philippe Brun, Rostin et d'autres, Christian Bellez, dont on parlait tout à l'heure, ils ont été contraints de se mettre plutôt à la variété, d'accompagner les chanteurs-chanteuses, ce qu'ils faisaient déjà d'ailleurs avant, mais dans des styles qui n'étaient pas nécessairement de jazz, des sambas, des rumbas, du mambo, des cha-cha-cha, qu'ils faisaient d'ailleurs fort bien, mais qui n'avaient plus grand-chose à voir avec le jazz.
Est-ce que je dois dire
avec le grand orchestre de Don Redman, qui était plus classique, mais où il y avait déjà des musiciens qui connaissaient le bop, comme justement Don Byas, ça a été quelque chose d'étonnant. Claude Laurent, c'est-à-dire André Oder, m'a raconté qu'ils se prenaient, jusqu'en 44, les musiciens français se prenaient pour des dieux. Quand ils ont vu arriver les Américains, à part Django étant à part, ils sont tombés de très haut.
On entendait Christian Bellest, trompettiste donc, et son orchestre en 1944, en février exactement, avec Yvonne Blanc au piano et Jerry Mango à la batterie. Il faut dire que ces deux-là étaient à peu près partout à ce moment-là. Ça s'intitulait « Elle et lui », mais on voit bien qu'il y a ici quelque chose qui n'est pas tout à fait dans l'air du temps. Il y a le bebop qui arrive, une sorte de tornade qui va tout balayer sur son chemin. Et Christian Bellest, comme une grande partie d'ailleurs du jazz de Paris, n'est pas tout à fait dans cette ambiance, il n'est pas tout à fait in the mood du bebop, si je peux me permettre cette expression qui mêle à la fois Glenn Miller et Charlie Parker, mais c'est vrai que ça ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui est en dehors quasiment du coup, ce sera les grandes chanteuses qui vont suivre, chanteurs de variété, qui vont reprendre cette façon d'être du jazz, qui est une façon un peu du passé, il faut quand même le dire comme c'est. La modernité à ce moment-là, c'est évidemment le bebop qui arrive en même temps que le débarquement des troupes américaines. Alors, il y a un autre aspect ici que nous allons entendre donné par Daniel Nevers, c'est l'apport des musiciens antillais au jazz en France, une coloration un tout petit peu spécifique. Et après le témoignage de Daniel Nevers, nous entendrons justement ce musicien. En l'occurrence, le plus important d'entre eux, c'est Robert Mavunzi, saxophoniste alto. En East Bebopper, c'est comme ça que son groupe s'appellera en 1947. Il y a André Persiani au piano. Nous serons le 4 juillet exactement de cette année 1947. Et donc, on va entendre la différence. Alors, gardez un tout petit peu à l'esprit, dans les oreilles plutôt, ce que vous venez d'entendre de Christian Bellest. Et puis, après la présentation de Daniel Nevers, vous allez entendre ce que donne Robert Mavunzi au saxophone alto avec ses beboppers.
Ça, c'est un autre aspect intéressant du jazz français à cette époque, c'est la participation de plus en plus grande des musiciens antillais. Parce qu'ils sont arrivés à la fin des années 20, au début des années 30, plutôt avec la biguine, mais ils étaient fort capables pour certains d'entre eux de jouer aussi du jazz. Et pendant, juste avant la guerre et pendant l'occupation, ils se sont réellement mis au jazz. Mavunzi est sans doute le plus sinueux des saxophonistes alto français dans la lignée de Benny Carter, peut-être plus qu'André Équian. Et il est aussi l'un des tout premiers, peut-être même le premier musicien français à avoir vraiment pigé le bebop dès 1946-47, avant les Frères Folle par exemple et avant Forenbach.
Ha ha ha!
On l'a entendu, donc le bebop n'avait pas mis beaucoup de temps à s'acclimater au climat français. C'était donc Robert Mavounzi ici au saxophone alto. Mavounzi va faire partie ensuite des orchestres antillais, mais il n'oubliera jamais le bebop, bien entendu, lui qui avait démarré comme un disciple de Benny Carter, peut-être un disciple d'ailleurs très obéissant, beaucoup plus que André Kian, beaucoup plus dans la lignée d'ailleurs directe de Benny Carter. On l'a entendu ici, Charlie Parker n'a pas été pour lui une leçon oubliée. Alors nous allons poursuivre ici avec un thème qui a été un thème un peu particulier. C'est une rencontre d'abord en 1946, au moment où cet enregistrement s'est effectué. Eh bien, Stéphane Grappelli et Django Reinhardt ne s'étaient pas vus depuis longtemps, puisque, on le sait, Stéphane était resté à Londres, en Angleterre. Il avait d'ailleurs constitué un groupe avec un pianiste aveugle qui va avoir une très très grande renommée, George Shearing en l'occurrence. Il va composer le Lullaby of Berlin. Aujourd'hui, c'est tout le monde interprète ça. Donc Stéphane et Django ne s'étaient pas vus. Ils vont fêter leur retrouvaille avec un thème qu'on va appeler en anglais « Echoes of France », mais qui en français doit forcément prendre le titre de la Marseillaise. Et cette Marseillaise-là va être non pas interdite à la vente, il va y avoir le disque, mais elle sera interdite sur les antennes. Nous en reparlerons après l'avoir entendue, cette Marseillaise. De cet hommage extraordinaire, la France n'a pas voulu, la radio française non plus. Alors nous allons partir avec Sim Coppens d'abord de ses Echoes of France. Il va raconter que la radio, on lui avait interdit de passer ce thème. Ce n'était pas donc une interdiction de la censure. Le disque, encore une fois, pouvait s'acheter. On pouvait écouter chez soi ses Echoes of France. C'était un disque swing, évidemment, de Charles Charles Delaunay, mais on n'avait pas le droit de l'entendre et de le diffuser à la radio française. C'est assez étonnant, sinon extraordinaire, cette situation, parce que, comme on l'a entendu, il n'y a pas là de quoi fouetter un chat. Il y a, au contraire, une espèce d'amour qui est un amour vraiment extraordinaire, étonnant, je dirais presque, de la part de ces deux personnages qui ont fait la scène du jazz en France. Quand un génie comme Django Reinhardt, en hommage à la Marseillaise, le moins qu'on le puisse faire, c'est de le diffuser sur les ondes. Ce n'est pas le cas, ce ne sera pas le cas à ce moment-là. Alors ensuite, Sim Coppens, ici c'est un témoignage vraiment fondamental. J'attire un tout petit peu votre attention dessus, parce que Sim Coppens va nous raconter comment il a créé les émissions de jazz sur Paris Inter, comment il a été aussi à l'origine du rachat de la station de radio de l'AFN, c'est la radio des forces armées américaines, Army Force Network ici, pour parler de la langue, dans la langue de Sim Coppens. Et donc il va y avoir ce témoignage des premiers temps de la radio, et je crois que ce témoignage-là est fondamental.
Dans le livre de Jacques Chesnel, il raconte que c'était très compté, le disque a fini par être interdit pendant 10 ans. En tout cas, je sais qu'on m'a fait savoir la radio dans les années 40 d'enlever ça de mon programme.
Oui, ça pose le problème de la radio. Alors on est revenu au moment de la libération et après. Comment ça s'est fait finalement? Vous êtes un universitaire enseignant à l'université de Columbia la littérature française et le français, et puis comme ça il y a une vocation nouvelle qui se manifeste chez vous, qui est homme de radio et homme de radio pour le jazz.
C'est un peu une suite d'accidents. Je serai très court. Dès 1944, un Américain qui travaille avec moi pour La Voix de l'Amérique a commencé à faire des émissions de musique américaine, des leçons d'anglais aussi. Il a déjà commencé. J'ai vérifié ceci. Je viens de repasser quelques heures à tourner les pages des revues de radio de 44. Ça s'appelait Radio 44 à la 15. Et j'ai constaté que dès décembre 44, il y avait une émission de jazz de Bobby Gims, toujours du jazz, qui a continué pendant au moins 2 ans. D'ailleurs, Bobby Gims était très, très critiqué par les critiques de radio de Jazzot. On a accusé...
Jazzot, c'est la revue de jazz en France qui recommence à reparaître en octobre 1945.
Oui, alors je crois que c'est le numéro décembre 1944. Et on attaque Gims en disant qu'il n'est pas très gentil, il est incompétent. Ayant dit ceci, il a continué pendant 2 ans à passer du jazz. Et dans Jazzot, on dit un peu avec raison pourquoi on n'a pas confié ça à Charles Delaunay ou à Panassier. D'ailleurs, Delaunay avait lui-même fait une émission sur Jimmy Lunsford en 44, j'ai constaté ça. En ce qui concerne Panassier, j'ai prêté des disques formidables de Duke Ellington enregistrés à la radio à Panassier. J'ai demandé au directeur des programmes de la radio française de prêter ça pour que Panassier puisse faire une émission, ce qu'il a fait en 46. Mais pour revenir à Hims, il a été tué dans un accident de voiture et ses émissions de jazz, ses émissions ont cessé. Oh, je dois ajouter qu'il a souvent présenté en direct, en anglais, en français, tous les orchestres de jazz de l'armée américaine, y compris l'orchestre Glenn Miller. En ce qui me concerne, en 2 mots, c'est presque un accident. J'ai eu beaucoup de rapports dans les années 45, 46, 47, 46 avec les gens qui faisaient fonctionner AFN, la radio. C'est eux qui m'ont donné pour la discothèque de la Voix de l'Amérique que je dirigeais beaucoup de vieux disques. Et ils m'ont prévenu en octobre 46. On ferme le 31 décembre pour aller en Allemagne. Nous avons un émetteur à Rueil-Malmaison. On veut bien vendre l'émetteur, la radio. Et grâce à moi, la radio a pu acheter cet émetteur et que la radio a décidé d'utiliser pour créer une nouvelle station qu'ils ont intitulée Paris Inter. À ma grande surprise, Gilson et Bréchignac, le nouveau directeur de Paris Inter, m'ont dit « Il vous appartient de diffuser la première émission. Je venais de recevoir des disques formidables de Ellington, de tas de musiciens de jazz, et j'ai fait une émission d'une heure qui s'appelait Panorama Jazz Américain. Donc Paris Inter a commencé de la façon suivante. Ici, Paris Inter, Simcoe Pence va vous présenter Panorama Jazz Américain. Par la suite, ils m'ont dit, ah c'est bien, vous allez faire ça tous les samedis maintenant. Par la suite, ils ont ajouté Negro Spirituals, l'Amérique et sa musique. Donc j'étais destiné, ancien prof, de faire des émissions sur le spiritual, le jazz, la comédie musicale, le folklore des États-Unis, la musique de ballet, etc. Voilà. 4000 émissions entre 47 et juillet 75.
Oui, Braving Ames aimait beaucoup, je crois. Armstrong, il passait ça très souvent.
Oh, c'était un classique pour lui, bien sûr.
Nous entendions ici Djangology, une composition évidemment de Django Reinhardt. Django Reinhardt était avec la TC Band le 26 octobre 1945 à Paris. On a déjà dit, Django Reinhardt est un génie, il domine de la tête et des épaules. Tous les musiciens de jazz américains qui débarquent, qui arrivent à Paris, veulent tous absolument jouer avec Django. C'est évidemment la référence, c'est celui qui crée quelque chose de nouveau. Et donc, à partir de ce moment-là, Django Reinhardt va beaucoup s'occuper, réaliser des concerts, des disques, enfin bref, il devient la vedette qu'on connaît aujourd'hui, dont on a en tous les cas l'image dans la tête, mais il a fallu attendre l'occupation puis la libération pour que ça se réalise. Alors, avant d'entendre le commentaire de Daniel Nevers sur cette période, sur Django Reinhardt et ses enregistrements avec la TC Band, signalons encore une fois la manière dont Sim Coppens a, lui, mis en œuvre les programmes sur la radio française. Il a raconté que, en fait, c'est lui qui a mis le pied à l'étrier de Hugues Panassier pour les émissions qu'il va ensuite réaliser sur le jazz. Il faut le dire, là, il ne le disait pas, mais Sim Coppens a été ensuite très amer parce que d'une part, Hugues Panassier a repris quasiment le titre de son émission de jazz et qu'ensuite, eh bien, ensuite, il a voulu prendre de plus en plus d'espace. Mais pour des générations successives, Sim Coppens a été la voix du jazz à la radio française.
La TC Band, c'est le premier orchestre vraiment constitué, grande formation s'entend, qui est joué régulièrement en France à ce moment-là. Parce que sinon, il y avait pas mal de musiciens, mais qui étaient isolés et qui faisaient des bœufs, qui faisaient des jam sessions. Celui-là a joué régulièrement et a souvent invité Django, la preuve. Et il paraît qu'à ce moment-là, quand des Américains un peu musiciens, que ce soit des amateurs ou des pros, que ce soit des blancs ou des noirs, demandaient à voir un musicien français, c'était tout de suite, immédiatement, le Django. Les autres, à la rigueur, pourquoi pas, mais Django. Ils voulaient tous, même s'ils n'étaient pas guitaristes, ils voulaient tous voir Django, qu'ils connaissaient par les disques. Beaucoup de disques avaient été, pas ceux de l'époque de l'occupation, mais ceux d'avant, avaient été diffusés aux États-Unis, et quelquefois des émissions de radio en ondes courtes aussi. Mais il le connaissait assez bien quand même.
Thank you.
En ce mois de novembre 1946, Django Reinhardt part aux États-Unis. Il part à la rencontre de l'orchestre de Duke Ellington et de Duke Ellington en particulier. D'ailleurs, c'est le Duke qui l'a invité et Django se fait toute une montagne de cette réunion. Il pense qu'il sera non seulement accueilli à bras ouverts, ce qui a été le cas, les concerts ont été très nombreux, mais Duke le considère plutôt comme une attraction supplémentaire. Plutôt que de l'intégrer à son orchestre, il va tout simplement le mettre en distance, je dirais presque. C'est-à-dire, il va le mettre sur la scène. Et puis, comme on vient de l'entendre, Django va non seulement prendre un solo, mais il va faire le spectacle d'une certaine façon. L'intégration à l'orchestre du Duke n'aura pas lieu. Il faut dire que il y a deux choses qui rentrent en ligne de compte. D'une part, Duke Ellington, comme le dit Patrick Williams dans sa biographie de Django Reinhardt, est en pleine création. Il a conçu la Black, Brown and Beige. Il est en train de concevoir une autre façon de voir le jazz. Bref, il est dans une situation où il ne peut pas intégrer un nouveau venu. Ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'il envisage de faire. Et d'autre part, il y a les prima donnes de l'orchestre du Duke qui n'acceptent pas non plus les nouveaux venus. Alors, vous voyez, Johnny Hodges, tous ceux qui sont déjà là depuis longtemps ne veulent pas la concurrence en quelque sorte de Django Reinhardt. Donc, ça se passe très mal. Alors, il faut quand même, malgré tout, pour rajouter à ce que dit Daniel Nevers, à qui je vais céder la parole, mais il faut rajouter que ce ne sont pas les concerts qui fonctionnent pas. Il y a du monde dans les concerts. On veut voir aux États-Unis Django Reinhardt. C'est pas ça qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas pour Django, et c'est pour ça qu'il sera très déçu, c'est la rencontre espérée avec Duke Ellington. C'est-à-dire l'idée qu'il pouvait comme ça avancer à son tour sur le chemin de l'aventure, avoir d'autres façons de voir le monde et faire voir le monde différemment aussi à Duke Ellington. C'est ça qui pour lui est un échec lamentable. C'est la raison pour laquelle il arrivera en retard au concert de Carnegie Hall. Ça ne l'intéresse plus. Il faut comprendre quand même que ce n'est pas par désaffection qu'il va boire un coup avec Marcel Cerdan qu'il rencontre par hasard à New York. C'est pas du tout parce qu'il se désintéresse du concert, non. Il se désintéresse de la musique qui est en train de se faire. Django, il faut le comprendre comme tel, a un véritable esprit d'aventure. Ce qui l'intéresse, c'est la nouveauté, c'est la modernité. Ce n'est pas de refaire d'une manière sempiternelle ce qui a déjà été fait, ce qu'il a déjà fait demain. Pour citer Julio Cortázar à propos de Charlie Parker, réellement ça ne l'intéresse pas. Et c'est parce que ça ne l'intéresse pas qu'il arrivera en retard, non pas le contraire. Il faut comprendre quand même cette dimension pour ne pas rigoler bêtement d'une situation qui est une situation qui provient d'une absence justement de substantifique moelle à cette rencontre que sur laquelle Django avait mis beaucoup d'espoir. C'est parce que ces espoirs ont été trompés en fait que ça ne fonctionnera pas.
Il avait rencontré déjà Duke Ellington et Louis Armstrong d'ailleurs en 1933-34 à Paris pendant le passage de l'orchestre de Duke, et Duke était très intéressé, et en 39 de nouveau il avait même enregistré avec plusieurs musiciens d'Ellington, Rex Stewart, Barney Bigard, Billy Taylor, et Duke était très intéressé. Il comptait bien l'engager. Bon, comme il y a eu la guerre et l'occupation, ça a été remis au calende grec, enfin 1946. Et je crois qu'il y a eu une espèce de mésentente, non pas avec Ellington le musicien, mais avec Ellington l'américain. Django était sans doute trop européen pour obéir à la discipline d'un grand orchestre comme celui-là, où il en faut, parce que c'est obligatoire.
Oui, on raconte que Duke Ellington lui demandait ce qu'il voulait jouer, il disait « jouez ce que vous voulez et je vous suivrai ».
Ça c'est vrai, mais ça ne se fait pas si facilement. Mais non, ouais. Surtout ce qui a mis le feu aux poudres, c'est que le soir, je crois que c'était de la grande soirée à Carnegie Hall, Django est arrivé un quart d'heure avant la fin. Il avait rencontré Marcel Cerdan à New York, ils avaient été boire un verre et il avait oublié lors du concert.
Février 1948, c'est la bataille d'Hernani en France. C'est comme ça qu'on l'a appelé en tous les cas. entre les partisans du bebop et les partisans du jazz traditionnel. Et celui qui va justement faire en sorte de séparer ces deux camps qui vont se battre, contrairement à ce que dit Daniel Levert, je ne suis pas persuadé que ce soit une mauvaise chose de se battre pour un orchestre, pour la défense de ce qu'on pense être la modernité, parce que derrière les questions d'esthétique, derrière les questions d'être pour ou contre le bebop, ce qui se joue, c'est bien l'accession de toute une génération à la modernité. Et c'est le big band de Dizzy qui va représenter cette quintessence justement de cette opposition. Et Dizzy qui arrive en fin février, 28 février 1948 à la salle Pleyel, invité par Charles Delaunay, parce que il était je ne sais plus où en Europe et que l'organisateur de tournée était parti avec la caisse, qui se retrouvait avec ses musiciens sans rien. Charles le fait venir donc salle Pleyel, et là c'est le déclenchement, c'est un véritable feu d'artifice au sens le plus fort du terme. Et Christian Belleste qui va intervenir tout de suite après ce Thing to Come, les choses à venir, le futur autrement dit, qui est le thème fétiche de Big Band de Dizzy Gillespie à ce moment-là, eh bien Christian Belleste va dire que ce fut un choc, et un choc énorme pour toute cette génération.
Dizzy en petit orchestre. Alors le deuxième grand choc, ça a été le big band de Dizzy. Ça, on peut dire, en 48, ça c'était quelque chose d'affolant. Affolant, comme personne ne comprenait rien. Tout ce qu'on savait, c'est quelque chose qui nous tombait sur la tête, là. Avec des super musiciens fous de jouer du bebop, là. C'est extraordinaire. Hein.
Je m'en souviens pas, j'étais sur les genoux de mon père, ça on me l'a raconté, parce que je m'en souviens pas, je devais avoir un an et demi. Oui, à peu près un an et demi. Je suis sûr que j'y étais, puisqu'on me l'a dit, il n'y avait aucune raison de me baratiner, mais je ne peux pas dire que je m'en souvienne vraiment. Quand j'entends les enregistrements qui ont été faits, et qui ont été faits dans des conditions assez précaires d'ailleurs, j'ai l'impression de me souvenir, mais en réalité, non, c'est simplement ce qu'on m'en a raconté. Précaire parce qu'il y avait trois micros, et il paraît qu'il y en a deux qui sont tombés en carafe.
Oui, oui, oui.
Il n'y en a qu'un qui a fonctionné pour le concert de Pleyel. Ça donne quand même des résultats pas trop mauvais, mais ça aurait pu, d'après Delaunay, être bien meilleur si les micros avaient vraiment fonctionné comme ils auraient dû dans une salle comme Pleyel.
Les deux chocs donnés par Christian Bellez sont deux chocs réels. D'un côté, l'arrivée des premiers disques de Gillespie et de Charlie Parker chez Guild, qui étaient passés chez Delaunay. En même temps, c'était la rédaction de Jazzot. Et puis le deuxième choc, donc cet orchestre de Dizzy dont on parlait précédemment, dont on entend encore un extrait derrière moi. Pour terminer, cet extrait des émissions que nous avions réalisées pour le 50e anniversaire du débarquement, le 1er juin 1994, bien nous allons entendre Daniel Levert présenter un tout petit peu cette guerre civile en France. Et puis, on va l'entendre évoquer des souvenirs de Charles Delaunay. Ce sera notre hommage personnel à Charles Delaunay.
C'est-à-dire qu'il dit que la France, cet aspect guerre, presque guerre civile entre les figmoisies et les raisins aigres. C'est-à-dire que, par exemple, en Angleterre ou aux États-Unis, il y avait des gens qui préféraient plutôt le jazz plus classique, le jazz plus traditionnel, et d'autres qui préféraient plutôt ça, mais ils n'éprouvaient pas le besoin de se taper systématiquement dessus, alors qu'en France, ça a vraiment été la bagarre.
En France, c'était une guerre de religion.
Oui, qui n'est d'ailleurs peut-être pas due à réellement au départ à des causes musicales. C'était peut-être des causes extra-musicales et la musique a servi de prétexte.
Oui,
on a quand même. Comme il n'est plus parmi nous, je n'en parlerai pas, mais il racontait que finalement, Hugues Panassier, qui a déclenché cette guerre à partir de 1946, c'est-à-dire à partir de l'arrivée un peu après l'arrivée des premiers disques de Guild, dont on vient d'entendre un exemple avec Otahouse, de Parker Gillespie, Alleg, enfin petite formation.
Ciné-cathlète,
qui lui d'ailleurs est à 36 casquettes parce que c'est un batteur de jazz qu'on pourrait dire classique. On peut le retrouver dans le All Stars de Louis Armstrong et il peut aussi bien jouer avec Parker Gillespie. Peut-être que Max Roach ou Kenny Clarke auraient été légèrement plus à l'aise, mais enfin ils s'en sortent très bien, c'est vrai. C'est un musicien qui a vraiment un grand éventail.
On raconte que Hugues Panassier n'a pas eu connaissance des disques pop tout de suite, c'est ça?
Le problème, d'après Delaunay, c'est que ces disques, évidemment, étaient envoyés au compte-gouttes des États-Unis via l'Angleterre. Ils étaient dans une très 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 mauvaise pâte, comme toutes les pâtes américaines de l'époque. D'ailleurs, les pâtes françaises ne valaient guère mieux. C'était encore des pâtes de guerre. Et... comme il n'en avait que deux jeux qu'il avait eu du mal à récupérer et que dans le pavillon du Hot Club, les musiciens se succédaient jour et nuit pour entendre ses faces, il était obligé de garder les deux jeux qui s'usaient très rapidement. Et Hugues Panassier, qui se trouvait dans son lointain Montauban, en a pris quelque ombrage. Il a écrit une lettre assez comminatoire à Delaunay lui disant: on m'apprend que vous avez des disques fantastiques, envoyez-les-moi par retour du courrier. Delaunay lui a simplement dit: écoutez Hugues, dès que nous en aurons de nouveaux jeux, je vous en ferai parvenir, mais là ça ne désemplit pas, à Montauban vous n'avez pas beaucoup de musiciens tout de même à qui les faire écouter, donc pour jusqu'à nouvel ordre je les garde. Et selon Charles Delaunay, c'est de là que serait partie en réalité la grande bagarre et non pas pour qui a fait dire à Hugues Panassier le bebop n'est pas du jazz, sous-entendu parce que c'est pas moi qui l'ai découvert le premier. Oui. C'est que quand j'ai eu les disques, tout le monde les avait déjà entendus, quelle honte.
Cette émission a été réalisée par Nicolas Beignès et Joël Le Tensorer. C'était le troisième volet de cette célébration du 62e anniversaire, rendez-vous compte, du débarquement. Pourquoi ne pas fêter le 62e anniversaire comme il se doit? C'était donc des extraits d'émissions du 1er juin 1994, du 50e anniversaire de ce débarquement, du débarquement à la fois des troupes américaines, de la libération, mais aussi du jazz. We'll be right back.